La présentation se nomme, bon, Other Regulars Joes, le jeu d'aventure comme conservatisme progressiste. Donc, après un peu plus d'une quarantaine d'années d'évolution technologique, le jeu vidéo semble, au premier regard, ne pas avoir subi d'importants changements au niveau de la représentation des personnages et des thématiques employées dans le récit. Si l'on constate, par exemple, la prodigieuse rhétorique des publicités de John Romero's Daikatana et Duke Nukem 3D dans les années 90, ainsi que cette succulente animation d'Ego Raptor qui se moque des joueurs de Halo Reach. Hein, comme si c'était pas assez de détruire l'intégrité corporelle de monstres quelconques, hein, il faut aussi s'attaquer à la couche d'ozone. La dominance de la masculinité militarisée dans l'industrie, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, a récemment été la source de nombreux débats, notamment avec les événements du hashtag Gamergate, où de nombreux commentateurs déploraient et déplorent toujours le conservatisme des designers. Pourtant, si les personnages masculins indestructibles aux muscles saillants demeurent généralement la norme dans les productions vidéoludiques d'envergure, dites AAA, le jeu d'aventure graphique semble à l'opposé de ce modèle prédominant. En effet, bien qu'il ait été un genre particulièrement populaire dans les années 80 et 90, il semble être à part quant à la représentation de la masculinité militarisée. Les personnages masculins sont, d'un côté, maladroits, ridicules et faibles, alors que de l'autre côté, les personnages féminins sont bien souvent à des années-lumière de la fameuse demoiselle en détresse. Notre hypothèse de recherche, divisée en deux temps, est la suivante. Le jeu d'aventure est un modèle de conservatisme progressiste, c'est-à-dire une œuvre vidéoludique où les caractéristiques de la masculinité militarisée sont interverties ou renversées malgré les pressions de l'industrie AAA au fil des années. Cette interversion ou ce renversement se fait au profit d'une représentation des personnages plus inclusive, variée et ancrée dans le réalisme. C'est un point, c'est pas une virgule. Ainsi, l'industrie du AAA se transforme progressivement avec des œuvres vidéoludiques qui ne mettent plus de côté les invisibles et les histoires, les personnages ordinaires d'autrefois. Notre communication aura d'abord pour but de définir le jeu d'aventure et la masculinité militarisée, et de voir comment, à partir d'un corpus d'œuvres bien précises, le jeu d'aventure infecte, lentement mais sûrement et surtout pour le mieux, les productions vidéoludiques AAA.
Donc, pour commencer, définir qu'est-ce que le jeu d'aventure. En fait, le jeu d'aventure présente un cas particulièrement intéressant pour l'histoire des genres vidéoludiques. Il est d'abord caractérisé par son ancienneté. Apparaissant au même moment que les premiers micro-ordinateurs grand public, l'histoire du jeu d'aventure couvre l'ensemble de celle des jeux d'ordinateur. Le genre accompagne toutes les évolutions technologiques, économiques et sociales liées à l'informatisation domestique. Ce faisant, le jeu d'aventure connaît d'importantes transformations. Donc, on nomme les jeux d'aventure ainsi, non pas parce qu'ils mettent en récit une aventure, mais plutôt parce qu'ils s'inscrivent dans la lignée du jeu Adventure de Crowther & Woods en 1977. Ainsi, des jeux comme Zelda, par exemple, font pas partie du genre vidéoludique d'aventure. On peut se demander qu'est-ce qui caractérise le jeu d'aventure. Définir un genre, particulièrement un genre vidéoludique, peut s'avérer complexe. Donc, le genre apparaît comme un concept intuitif et imprécis. Il échappe aux catégorisations systématiques et rigoureuses. Il dénote des phénomènes potentiellement très différents à travers les disciplines ou les médias où il est présent. Et il s'agit d'une notion multidimensionnelle. Ces caractéristiques sont communes à tous les usages du concept et sont à peu près les seules choses qui soient partagées par les genres littéraires, cinématographiques et vidéoludiques. Il devient alors difficile de trouver des critères uniformes qui s'appliquent aux jeux d'aventure, d'autant plus que le genre est en constante évolution. Il y a souvent confusion. Certains utilisent le terme « aventure » pour décrire l'activité du joueur, comme manœuvrer le personnage joueur avec dextérité et le livrer livrer des batailles en temps réel. Ou d'autres, en fait, utilisent le terme « aventure » pour parler du thème et de la structure narrative. On peut aussi se demander qu'est-ce qui n'est pas le jeu d'aventure. En fait, il y a plusieurs définitions qui s'élaborent à partir de ce que n'est pas le jeu d'aventure. Ils ne font pas appel aux réflexes ou aux éléments d'action. Ils ne se réfèrent pas non plus à la définition d'aventure du dictionnaire. Ils ne sont pas des jeux de rôle, des jeux d'action-aventure, non plus des jeux de puzzle, des jeux de plateforme. Donc, comme Jonathan Lessard, malgré les efforts de tenter de comme Jonathan Lessard l'a dit, malgré les efforts de tenter de définir ce qu'est le jeu d'aventure, la plupart des définitions restent poreuses. On peut néanmoins tenter de résumer, pour les biens de la présentation aujourd'hui, les jeux d'aventure comme ayant trois caractéristiques essentielles, ou souvent présentes, en fait. Il y a la présence de narration, où le récit est essentiel, la présence de puzzles, des défis sous plusieurs formes, et finalement l'exploration du monde de jeu. Les jeux d'aventure peuvent être en first person ou en third person, par exemple, et présentent plusieurs styles graphiques. les jeux d'aventure ont assez évolué. D'abord textuels, des images se sont rajoutées au jeu, notamment avec le jeu Mystery House de Online System en 80. LucasArts a innové en 87 une interface dite point and click, qui est devenue une forme plus ou moins définitive. Le genre a connu son âge d'or dans les années 80 et 90, pour ensuite mourir à la fin des années 90, si on veut. En fait, il y a quand même eu des jeux d'aventure dans les années 2000, mais on peut revoir une renaissance du genre avec notamment les jeux de la compagnie Telltale, comme Tales from the Borderlands, dont on va parler aujourd'hui, ou Walking Dead. Ces jeux, les nouveaux jeux d'aventure, si on veut, sont surtout basés sur des possibilités de récit et de dialogue et reprennent occasionnellement la formule des puzzles et des quick time events, donc des actions ponctuelles que le joueur doit effectuer. Donc, pour notre corpus d'aujourd'hui...
La première moitié, du moins, du corpus.
C'est ça, la première moitié du corpus. On va parler de la série Monkey Island et du jeu Tales from the Borderlands. Donc, Monkey Island est une série de jeux d'aventure développée par LucasArts, qui était à l'époque Lucasfilm Games, à partir de 1990. Les jeux Monkey Island racontent l'histoire de Guybrush Threepwood, un jeune homme qui arrive à Millie Island et qui aspire à devenir un pirate. Il tombe amoureux de la gouverneure de l'île, Hélène, et devient le rival de LeChuck, un pirate qui est fantôme, ensuite zombie, ensuite démon, ensuite géant. Ces jeux d'aventure utilisent l'interface classique de LucasArts, le point and click, en résolvant des énigmes, comme par exemple trouver un objet qu'on doit donner à un personnage ensuite pour qu'il nous donne un autre objet qui va nous servir plus loin dans le jeu. Les jeux offrent aussi la possibilité de choisir les lignes de dialogue. Et le jeu Tales from the Borderlands est un jeu d'aventure épisodique développé par Telltale en 2014. Les derniers épisodes sont sortis en 2015. C'est un spin-off de la série Borderlands, qui est un mélange de jeux de rôle, de RPG et de first-person shooter. Mais par contre, le gameplay de Tales from the Borderlands ne suit pas celui de la série originale. Tales from the Borderlands permet de faire des choix narratifs qui ont un impact sur le déroulement du récit, parsemé de quick-time events. On incarne parallèlement deux personnages, Reese et Fiona, dont les histoires s'entremêlent et qui gravitent dans un univers de science-fiction quelque peu Mad Maxien. Le premier protagoniste, donc Reese, est un employé d'une méga corporation, Hyperion, qui tente de se venger de son patron qui ne l'a pas promu, alors que Fiona est une escroc de la planète Pandora qui tente de vendre un faux artefact. Les deux personnages se rencontrent et finissent malgré eux par partir à la recherche d'un artefact mythique. Le récit est raconté par les deux personnages captifs qui racontent chacun leur version de l'histoire.
Qu'est-ce que la masculinité militarisée? Mon premier point, du sang, des sorts et un tas de violentes choses. Je me suis inspiré un peu de l'intro des Super Nanas. J'ai comme un trip de Super Nanas ces temps-ci, mais ça résume essentiellement ce qu'est la masculinité militarisée. Donc, dans Digital Place, la couverture pixelisée qu'on voit à l'écran, les auteurs Stephen Klein, Nick Dyer Whitford et Greg DePuyter définissent la masculinité militarisée comme un complexe qui entremêle des ingrédients qui vont des fusillades et des combats aux sorts magiques de destruction, aux jeux de guerre stratégique et tactique, à l'espionnage, aux scénarios d'exploration, et bon, j'en passe. Ces éléments font partie d'une pression hégémonique de la culture vidéoludique qui mobilise les fantasmes de domination et d'annihilation et se résume à un champ de guerre bien distinct, Command, Control, Kill. Les origines de la masculinité militarisée, en fait, depuis les origines belliqueuses de l'interactivité, donc le jeu vidéo est basé sur une sous-culture un peu militaire de jeunes hommes qui aiment la technologie. Par la suite, l'industrie a recruté de nouveaux développeurs de cette même sous-culture, reproduisant les mêmes obsessions thématiques et ces schémas d'exclusion féminine à travers plusieurs générations. Au-delà du fantasme de puissance et de l'antagonisation, en fait, c'est que malgré le fait que la masculinité militarisée soit un thème dominant, il existe bien d'autres discours. Quand on pense à la masculinité militarisée, on pense souvent à deux adresses publicitaires prédominantes dans l'industrie, soit l'antagonisation et le fantasme de puissance. Donc, l'antagonisation, c'est « Can you do it? Do you have what it takes? » Fantasme de puissance, « Be the hero the world deserves. » Quelque chose de même. J'invente un truc en ce moment. Nous pourrions également y ajouter à ça l'hypersexualisation de la demoiselle en détresse ou de la vilaine ensorceleuse, selon si le personnage féminin secondaire, voire souvent tertiaire, est adjuvant ou antagoniste. Le jeu de tir à la première personne Oui, le jeu de tir à la première personne, souvent surnommé Doom-like en l'honneur de Doom dans les années 90, est sans doute le genre le plus représentatif de la masculinité militarisée. Mais au sein de ces traditions que sont les jeux de garçons et la culture mâle, il y a des lignes qui pointent vers d'autres directions, dont celle de la diversité et de l'inclusivité, des protagonistes qui vont au-delà de l'homme blanc hétérosexuel cisgenre. En fait, la faiblesse, au sens où le complexe de la masculinité militarisée l'entend, est intrinsèque à la puissance. Si l'on se fie aux essais de Sutton Smith sur la rhétorique du pouvoir dans le jeu, il y a toujours une tension entre ces binômes. Le joueur, dès qu'il consent à entrer dans l'arène, à pénétrer dans le cercle magique, doit se battre pour prouver sa valeur et passer par-dessus ses lacunes qui pourraient lui coûter la victoire. Il ne faut cependant pas comprendre cette tension faiblesse et puissance comme une dichotomie, mais bien l'apercevoir comme un spectre de possibilités. Ainsi, chaque avatar a le potentiel d'être tout aussi puissant qu'il est faible. Chaque personnage a son yin et son yang. Je m'excuse pour cette phrase cheesy. Donc, le FPS, en fait, le first-person shooter, comme je l'ai dit, c'est le genre par excellence de la masculinité militarisée. Les origines du FPS remontent à la moitié des années 70, alors que des créateurs d'un peu partout à travers l'industrie se sont mis à développer des jeux qui permettaient d'immerger les joueurs à l'intérieur d'espaces tridimensionnels. Dans les années 80, ces expérimentations sont devenues de plus en plus détaillées. Avec l'évolution d'Internet, le FPS a explosé au début des années 90 et a été considéré en fait comme la killer app, donc le logiciel incontournable qu'on voulait avoir si on était trendy puis vraiment cool. Ce qui permettait en fait aux joueurs de se battre dans des combats d'arène et amenant de nouveaux modes de jeu comme le Capture the Flag. Les FPS sont joués à partir d'un point de vue subjectif, comme si le joueur habitait l'espace tridimensionnel. L'action se déroule dans une prise de vue plus ou moins continue, imitant les cadres cinématographiques d'Hollywood, tout en étendant ce concept jusqu'à son extrême logique. Au lieu de visualiser l'avatar de l'extérieur, la caméra devient l'avatar et vice-versa. Mon corpus, deux jeux de la même série, Wolfenstein 3D et Wolfenstein The New Order. Pour le 3D, en fait, c'est l'ancêtre de Doom, donc c'était avant Doom. Doom s'est beaucoup inspiré de Wolfenstein, c'est la même compagnie de toute façon. C'est sorti en 92 sur DOS, mais ça va être porté sur plusieurs plateformes par la suite. Et c'est le charismatique et métalleux John Romero qui, on se souvient de la pub magnifique au début, qui a eu l'idée, en fait, de faire ce jeu-là après avoir joué à Castle Wolfenstein, qui était en fait un jeu d'infiltration sur Muse. Et le FPS de Wolfenstein reprendra cependant la thématique principale, le récit de base, qui est l'incarnation d'un allié juif du nom de B.J. Blazkowicz. En tout cas, qui doit s'échapper de Castle Wolfenstein et détruire Mecha Hitler, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre. Pour ce qui est de New Order, donc, c'est le dernier opus de la série jusqu'à présent. Ça se situe dans une Europe d'après-guerre des années 60 où les nazis, en fait, ont gagné. B.J. Blazkowicz, après un coma qui a duré une quinzaine d'années, doit mener la résistance et renverser le régime totalitaire avec le peu de moyens et d'alliés à sa disposition, malgré le fait qu'il va souvent avoir deux pistolets en même temps, puis qui tue tout le monde à lui seul. Au son de reprises allemandes de succès musicaux du moment. Malheureusement, j'ai pas le temps, mais j'aurais mis une reprise des Beatles en allemand, c'est vraiment savoureux. Et... On s'aperçoit que plus ça change, plus c'est pareil. La capture d'écran qui vient d'apparaître, en fait, c'est dans l'extension The Old Blood, qui est comme l'extension de New Order, et dans lequel on a exactement le même B.J. Blazkowicz dans toute sa splendeur, avec un gun frappant un nazi. Bon, c'est tout.
Donc, pour revenir à notre hypothèse, en fait, que les jeux d'aventure présentent les caractéristiques de la masculinité militarisée renversée, ces jeux-là subvertissent on voit un renversement de l'archétype de la demoiselle en détresse dans les jeux. Donc, comme le démontre Anita Sarkisian dans ses vidéos de vulgarisation « Trope versus Women in Video Games », l'utilisation de l'archétype de la demoiselle en détresse est particulièrement présente dans les jeux vidéo, où les rôles des personnages féminins, lorsqu'elles sont présentes, en fait, sont souvent peu glorieux. La femme, qui est souvent l'amoureuse ou l'intérêt romantique du héros, est souvent kidnappée, pétrifiée. Son esprit est possédé dans le but de motiver le héros dans sa quête. Les jeux Monkey Island et Tales from the Borderlands reprennent ce cliché, mais plutôt pour le renverser ou pour jouer sur les attentes des joueurs afin de défaire les codes du genre et renforcer la figure du héros, pardon, ne correspondant pas à la masculinité militarisée. Pour citer Gabriel Trépanier-Jobin, qui cite en fait Butler, la performance parodique du genre qu'effectuent par exemple les drag queens ou les drag kings révèle implicitement la structure imitative du genre lui-même. Voir un homme surjouer le rôle d'une femme rappelle en effet que nous surjouons tous notre rôle. Cette performance détient un potentiel subversif, non seulement parce que l'imitation exagérée de la féminité et de la masculinité met en évidence leur artificialité, mais aussi parce que le mélange des attributs féminins et masculins sur un même corps démontre que ceux-ci ne relèvent pas d'un destin biologique. Donc, dans la série Monkey Island, le personnage de Guybrush Threepwood est souvent présenté comme étant incompétent et maladroit, alors que les personnages féminins ont un rôle plus positif. En fait, assez tôt dans le jeu, le personnage de Guybrush doit confronter le maître d'épée, le Swordmaster, mais il se trouve que le Swordmaster est en fait une femme. Donc, c'est le premier personnage féminin du jeu, puis déjà, il ne correspond pas aux stéréotypes de genre souvent rencontrés dans les jeux. Mais c'est surtout dans le personnage d'Hélène que se trouve le renversement de la demoiselle en détresse. Hélène est la gouverneure de Millie Island, dont Guybrush tombe amoureux. Elle est d'emblée présentée comme un personnage plus compétent et plus fonceur que les héros, qui, lui, n'arrive pas à placer un mot devant elle lors de leur première rencontre. Dans The Secret of Monkey Island, le premier jeu de la série, lorsque Guybrush se fait noyer par le shérif de l'île, Hélène vole à son secours. La gouverneure est par la suite enlevée par le pirate fantôme LeChuck, qui est lui aussi amoureux d'Hélène et qui tente de l'épouser. Le jeu semble tomber dans le schéma narratif classique du héros qui doit sauver sa belle. Guybrush doit encore accomplir certaines épreuves, se trouver des alliés et aller secourir sa demoiselle capturée par l'ennemi. Il parvient à retrouver LeChuck dans une église sur Millie Island qui tente d'épouser de force Hélène. Guybrush interrompt le mariage pour sauver Hélène qui s'était finalement déjà échappée et qui dit à Guybrush qu'elle n'avait pas besoin de son aide. En fait, il a fait tout foirer le plan d'Hélène. Elle quitte finalement la scène, laissant Guybrush seul avec le fantôme à vaincre. Le héros aura finalement raison de LeChuck, non sans quelques bleus. Le rôle d'Hélène dans la série Monkey Island demeure consistant avec le premier opus. Par plusieurs occasions, elle vient au secours de Guybrush, notamment quand il est pris dans un trou dans le deuxième Monkey Island, dans LeChuck Revenge. Il est accroché sur une corde, donc elle vient à son secours. Dans le troisième Monkey Island, The Curse of Monkey Island, elle décide de combattre le pirate LeChuck, croyant que ce dernier a tué Guybrush. Elle est présentée comme une femme forte et compétente qui contraste avec le héros qui, lui, n'arrive à vaincre LeChuck que souvent par chance, en fait. Le jeu Tales from the Borderlands renverse aussi le cliché de la demoiselle en détresse. Le jeu met en scène plusieurs personnages féminins compétents, alors que le personnage de Rhys est souvent dépeint comme le demoiseau en détresse. Il arrive fréquemment que Rhys soit dans une situation critique, notamment dès le premier épisode, où il se trouve malgré lui mêlé à une fusillade pour finalement se faire sauver par le Loaderbot, qui est un robot envoyé par une de ses amies. Et le robot va même venir le sauver à plusieurs reprises. Le personnage Rhys, en fait, est physiquement plus faible que le reste de son équipe, et il est souvent sous-estimé par ses ennemis, mais aussi par ses compagnons. Par exemple, au début du deuxième épisode, Rhys et son ami Vaughn sont malencontreusement séparés du reste du groupe, et ils sont perdus sur Pandora, qui est une planète avec des créatures mortelles. Fiona, qui est l'autre protagoniste, croit pas que Rhys va parvenir à rester en vie sur Pandora. Finalement, ce dernier, Rhys, va finalement se faire sauver encore une fois par le Loaderbot. Au contraire de Rhys, les personnages féminins sont représentés comme étant compétents et autonomes, loin de l'archétype de la demoiselle en détresse habituellement rencontrée dans les jeux. Fiona et sa sœur Sasha sont deux escrocs qui ont l'habitude de se débrouiller par elles-mêmes, sans aide, sur Pandora. Elles sont meilleures au combat que Rhys et ont des connaissances sur les armes, en particulier Sasha, qui est une fanatique d'armes. Justement, l'arme que possède Fiona est grandement supérieure à celle de Rhys, alors que le personnage masculin possède une sorte de bâton électrique Fiona sert d'un petit pistolet qui peut facilement se cacher et qui a des balles de différents éléments qui sont nettement plus puissantes que le bâton de Reese. Le fait d'incarner deux personnages dans Tales from the Borderlands permet d'emblée de détruire ou du moins de dénaturaliser le cliché de la demoiselle en détresse, puisqu'on joue un personnage féminin actif et puissant. Il faut toutefois garder en tête que, pour citer encore Gabrielle Trépanier-Jobin, la dénaturalisation des stéréotypes n'est pas une forme de subversion, puisqu'elle ne vient pas nécessairement de pair avec le renversement de l'ordre, des valeurs et des modèles établis. Il faut quand même considérer la dénaturalisation comme une étape préalable à la subversion, dans la mesure où cesser d'envisager les conventions de genre comme des faits de nature avec lesquels il faut à tout prix composer, ou comme des exigences sociales incontournables. Pardon. Bon, en fait, ça ouvre la porte à la transformation des stéréotypes. Les personnages masculins qui se rapprochent plutôt de la performance de la demoiselle en détresse et les personnages féminins actifs permettent de détruire en partie le mythe de la masculinité militarisée présente dans les jeux vidéo. En plus de renverser le stéréotype de la demoiselle en détresse, Monkey Island et Tales from the Borderlands présentent d'autres personnages qui ramènent le héros au statut d'homme médiocre et incompétent, défiant la masculinité militarisée. Les deux personnages sont hantés en quelque sorte par des fantômes. Ces revenants hantent et menacent les protagonistes, les ramenant constamment à un fantasme de masculinité, à un idéal à atteindre, et représentent paradoxalement la réussite et l'échec. Le pirate LeChuck, qui est rival de Guybrush, est mort et est devenu fantôme suite à la déclaration d'amour ratée à Hélène. Donc pour Guybrush, LeChuck reste quand même un idéal à atteindre, puisqu'il a réussi là où Guybrush semble échouer, être un pirate. LeChuck est un pirate légendaire et féroce, que même la mort n'arrête pas, alors que Guybrush doit se prouver et se fait sans relâche sous-estimer. Même lorsque des faits, LeChuck retrouve un moyen de revenir, par exemple en zombie. Le fantôme de Reese est différent de LeChuck, en fait. Reese est tenté par le personnage de Handsome Jack, qui est l'adulé ancien président de la corporation Hyperion. Handsome Jack est mort dans Borderlands 2, mais réapparaît sous forme d'intelligence artificielle qui est malencontreusement implantée dans Reese, qui est le seul à le voir. Alors que le pirate de Monkey Island est l'antagoniste du jeu, Handsome Jack est présenté au début comme l'idole de Reese. C'est un homme charismatique jusque dans son nom. Il représente un idéal de puissance à atteindre, en particulier pour Reese, qui tente de gravir les échelons, mais qui est rapidement freiné. Il apparaît toutefois rapidement que Handsome Jack est en fait un dangereux sociopathe qui avait même orchestré sa résurrection et qui avait besoin d'un corps, en l'occurrence celui de Reese, pour pouvoir continuer ses plans de destruction. La menace principale exécutée par Jack et LeChuck, c'est l'annonce d'une corporalité qui n'apparaîtra finalement jamais, arrêtée juste à temps par nos héros de fortune qui utiliseront des stratégies qui vont à l'encontre des fondements même de la masculinité militarisée, comme la ruse ou le charisme.
Oui. Donc, un peu comme les spectres, les fantômes qu'on vient de traiter, c'est le remords va souvent amener le joueur et ou le protagoniste en même temps à se questionner sur la pertinence et l'éthique de ses actions. Donc, à quel point ce que je fais, c'est bon, mauvais, bon, peu importe. Comme le souligne Miguel Sicard dans The Ethics of Video Games, la progression est intrinsèque à l'expérience vidéoludique. Mais pour se rendre du point A au point B, souvent, il y a beaucoup d'embûches. Et souvent, le meilleur moyen pour vaincre ces embûches-là, ça va être la stratégie optimale, en fait, c'est la résolution de conflits par la violence la plus brutale qui soit. Sicard mentionne que des jeux tels que la série des Grand Theft Auto sont non éthiques parce qu'ils obligent souvent le joueur à commettre des actions non éthiques, alors en désaccord avec l'éthique de la vertu. Selon cette pensée, un individu ne peut développer de bonnes valeurs morales et appliquer son jugement que s'il pratique ceux-ci, ce qui l'aidera à prendre de bonnes décisions face à des dilemmes éthiques. Ceci étant dit, Wolfenstein 3D ne donne aucune occasion au joueur pour que celui-ci devienne vertueux, alors que le FPS pixelisé reprend le modèle classique des aventures de Donjons et Dragons, donc Explore, Kill, Loot, sans la présence de dialogues chargés d'émotions ou de choix moraux particulièrement importants. Loin d'être à l'opposé total du premier opus, The New Order est une nette amélioration en ce qui a trait à la pratique de l'éthique de la vertu. Le joueur aura à faire des choix difficiles tout au long du jeu, ce qui aura des répercussions plus ou moins importantes sur la suite du récit, comme c'est le cas avec le dilemme représenté à l'écran. Où on a le choix en fait entre sauver le soldat Wyatt ou le vétéran Fergus, et qui par la suite deviendra un boss. Excusez, spoilers, mais bon, le jeu fait 2 ans qu'il est sorti. Cet événement ponctuel parmi plusieurs autres, qui vient marquer un embrassement dans l'arborescence narrative du jeu vidéo, de même que l'introspection de Blazkowicz, qui se questionne incessamment sur la futilité des horreurs de la guerre, rapproche considérablement Wolfenstein de New Order au jeu d'aventure graphique quant à sa caractéristique primaire, c'est-à-dire raconter une histoire intéressante par le biais de la jouabilité et des cinématiques où les personnages ressemblent plus à des humains qu'à des machines de guerre. Outre cette moralité ambiguë, on constate que le commando juif tueur de nazis, cette fameuse Death Incarnate qu'on annonce aux joueurs lorsqu'il choisit la difficulté avant de débuter la partie, n'est plus le même qu'il a déjà été il y a une vingtaine d'années. En fait, le nouveau Blazkowicz est loin d'être le héros qui accomplit la tâche herculéenne de gagner la Seconde Guerre à lui tout seul. Dans The New Order, le protagoniste échouera plutôt cette même mission au début de la partie, menant à la victoire de l'Axe et passera une quinzaine d'années, comme je l'ai dit, dans le coma. Lorsqu'il finira par se réveiller, il devra reprendre l'Angleterre des mains de l'ennemi, accompagné notamment d'un couple de personnes âgées, d'une jeune infirmière, d'une africaine, d'une femme en chaise roulante et d'un jeune homme lobotomisé, comme on voit à l'écran. Si ces personnages sont pour la plupart au second plan, on remarque tout de même une certaine variété dans la représentation des personnages comme dans Monkey Island et Tales from the Borderlands, qui fait muter, sans toutefois la transformer totalement, la masculinité militarisée. Comme le notaient les auteurs de Digital Play, cette tension entre violence et variété dans le circuit culturel de l'expérience vidéoludique interactive est ce qui oblige les designers et les joueurs par extension à créer un équilibre entre la destruction numérique et l'expérimentation de nouveaux modèles de jeux variés. Puis, comme le soulignait Gonzalo Frasca en 2003, cité par Mark Hayes dans le Routledge Companion of Video Games, les perspectives idéologiques des designers de jeux sont transmises à travers les représentations vidéoludiques. Par exemple, quand un designer exclut ou inclut, comme c'est le cas respectivement dans Wolfenstein 3D et The New Order, des ethnicités, un groupe d'âge ou un genre dans l'action du jeu, le sous-texte de ces choix de design apporte un certain poids idéologique. De plus, Frasca soutient que les règles vidéoludiques fonctionnent comme des simulations ou des modèles idéologiques. Ces règles reflètent les convictions des designers tout en permettant et en restreignant les actions et la réflexion du joueur, mais elles amènent également le joueur à se questionner sur des présupposés idéologiques des jeux vidéo à travers un dialogue critique. Ainsi, les designers de New Order, par la présence d'une révolution inclusive comprenant des personnages variés, amène le joueur à se questionner indirectement sur les tenants et aboutissants de la masculinité militarisée qui semble désormais plus variée qu'auparavant. Une sous-culture vidéoludique qui engendre des générations de jeunes hommes technophiles et machistes tout en demeurant violents. L'homme blanc hétérosexuel, cisgenre, ne peut tout simplement pas demeurer seul dans notre réalité contemporaine. Avant de conclure, on aimerait vous présenter un article, en fait. Ben, pas un article, un...
Est-ce que je laisse ça? Ouais. Est-ce que je pensais faire?
Bon, on va le montrer avant. Mm-hmm. Mais c'est une vidéo qui se moque beaucoup des conventions du first-person shooter. Tu peux-tu monter le son? It's gonna take years to do all the paperwork. Better. Up to it. Donc, déjà là, une voix qui est en train de muer, donc pas encore un homme, on peut dire ça comme ça. Des guns. On se moque aussi un peu des joueurs qui sont comme des nerds qui s'amusent comme ils peuvent. Parce que c'est des comptables. Parenthèse, c'est des comptables. Ouais, baisse le son un peu. Puis...
Donc, les jeux d'aventure, les first-person shooters, semblent de prime abord n'avoir que peu d'éléments en commun, que ce soit au niveau de la jouabilité ou des thématiques. Les jeux d'aventure offrent encore aujourd'hui un modèle qui va au-delà de la simple masculinité militarisée, en ayant des représentations plus variées et plurielles que celles de l'industrie AAA, avec la série Monkey Island, par exemple. La jouabilité y est probablement pour quelque chose. Le joueur ou la joueuse ne cherche pas à acquérir plus de puissance, à détruire tous ses ennemis, mais plutôt à résoudre des énigmes et à faire avancer le récit, ce qui demande plus de réflexion que d'action, ce que le first-person shooter, de même que tout autre genre particulièrement violent et machiste, tente progressivement de proposer aux joueurs et aux joueuses. Les auteurs de Digital Play notent que l'industrie vidéoludique cherche à conserver la masculinité militarisée parce qu'elle est une valeur sûre, recherchée par une pléthore de joueurs. Si la popularité des jeux d'aventure peut prouver quelque chose... C'est qu'il est possible d'avoir du succès d'un point de vue commercial et critique, et ce, sans reprendre les schèmes de la masculinité militarisée, ou même en s'en moquant carrément, comme on peut le voir dans la vidéo à l'écran. Le monde vidéoludique change, les gamers, du moins la plupart d'entre eux, ne sont plus ce qu'ils étaient et veulent plus d'inclusion et de diversité. L'industrie doit donc s'adapter à cette nouvelle demande. Donc, c'est ça, on peut finir.